Ruth chapitre 4. Et Boaz monta à la porte et s'assit là. Et voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer, et il dit : Toi, un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes des anciens de la ville et dit : Asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Elimelech. Et moi je me suis dit, je t'en informerai et je te dirai, achète-la en la présence des habitants et en la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi. Afin que je le sache, car il n'y a personne que toi pour racheter, et moi je suis après toi. Et il dit, je rachèterai. Et Boaz dit, au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Or, c'était jadis une coutume en Israël, en cas de rachat et d'échange, que pour confirmer toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. C'était là une coutume en Israël. Et celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, achète pour toi. Et il ôta sa sandale. Et Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui était à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Maclon, et aussi que je me suis acquis pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Maclon, pour relever le nom du défunt sur son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : « Nous en sommes témoins. Fasse l'Éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et deviens puissant dans Éphrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Et que de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. » Et Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme, et il vint vers elle, et l'Éternel lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi : « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat, et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme et un soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Et Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein, et elle eut un lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, disant : « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et ce sont ici les générations de Pérets. Pérets engendra Hetzron, et Hetzron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nakhshon, et Nakhshon engendra Salma, et Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.
La dernière fois, nous avons vu la fin du chapitre 3 de Ruth. Nous avons rappelé que, peut-être pour remettre dans le contexte, chapitre 2 nous parle de la relation publique de Ruth avec Boaz et le chapitre 3 de sa relation privée avec lui. Nous avons dit que Ruth est dans ce chapitre une image de l'Église pendant la nuit. Elle est couchée aux pieds de Boaz, similaire à Marie aux pieds de Jésus dans Luc 10. Ruth est aussi l'image du résidu juif pendant la grande tribulation qui retournera à son Seigneur. Après que Boaz ait donné l'assurance de la bénédiction de Ruth, nous avons vu qu'il s'empresse de la rassurer. Au verset 11, « Maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. » Il prend les choses en main. À partir de là, c'est lui qui prend les choses en main. Pour cette bénédiction-là, Ruth n'a plus rien à faire. Il lui donne alors deux promesses. « Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. » Dans Jean 14, nous voyons pour cette promesse : « Quoi que vous demandiez en mon nom, moi je le ferai. » La seconde promesse, c'est : « L'Éternel est vivant, que s'il ne lui plaît pas de te racheter, je le ferai moi. » Pour l'Église aussi, le Seigneur nous dit à l'égard de toutes nos promesses : « Je le ferai moi pour toi. » Au verset 15, pour l'heure, il veille encore à la subsistance de Ruth et Naomi. Il met sur elle les 6 mesures d'orge, un poids important, comme une couronne. Nous avons pensé que le sceau du Saint-Esprit est le gage de ce que le Seigneur veut faire de nous. Tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Elle raconte, Ruth raconte à Naomi tout ce que l'homme avait fait pour elle. Il n'est pas dit tout ce qu'il a dit. Il y a une partie de nos rapports avec le Seigneur qui reste à ses pieds, et aussi une partie que nous rapportons à nos frères et sœurs. Au verset 16, nous voyons les deux femmes qui sont occupées de Boaz. Cela illuminait leur situation difficile. Elles avaient les 6 mesures d'orge comme promesse de ce que Boaz va s'empresser de faire. Quelle différence nous voyons avec Naomi après avoir dit au chapitre 1 que le Seigneur l'avait fait revenir à vide. Elle peut maintenant dire « Demeure ma fille jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos qui n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. » Nous allons voir cela maintenant.
Le verset 18 du chapitre 3 le montre bien que Naomi dit à Ruth de demeurer jusqu'à ce que l'homme ait terminé l'affaire aujourd'hui, parce qu'il n'est pas de repos avant que l'affaire soit terminée aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que Boaz aimait Ruth. C'est pour cela que l'affaire sera terminée aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'attente. Mais Naomi dit à Ruth, demeure. Et nous pouvons lire le psaume 37, le verset 7, demeure tranquille, appuyée sur l'Éternel. Voilà, Naomi devait demeurer tranquille, parce qu'elle aussi, elle aimait Boaz. Et voilà, l'homme n'aura pas de repos jusqu'à ce que l'affaire soit terminée aujourd'hui.
Le chapitre 3 du livre de Ruth répondait à la question du premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit à Ruth, ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse? Et le développement de ce chapitre 3 répond à cette question, qu'est-ce que le repos? Qu'est-ce que le bonheur? Et la réponse qui nous est donnée à cette question, qu'est-ce que le repos? Qu'est-ce que le bonheur? Pour Ruth, c'était d'être au pied de Boaz pendant cette nuit. Et en ce qui nous concerne, c'est aujourd'hui de jouir en permanence de la présence du Seigneur Jésus à nos côtés. Et c'est seulement dans cette mesure que nous pouvons trouver le repos et le bonheur. Le repos sur cette terre, c'est de se tenir au pied de Jésus, comme Ruth se tenait au pied de Boaz. Le chapitre 4 que nous venons de lire nous parle de l'union de Boaz et de Ruth. Et elle nous parle aussi parce qu'elle préfigure notre relation avec Christ, c'est-à-dire l'Église, l'Assemblée, et chaque membre de cette Assemblée, chaque racheté du Seigneur sur cette terre, eh bien, nous sommes unis à lui pour toujours. Et c'est un exemple donc précieux dans l'Ancien Testament de ce qu'est le mariage aux yeux de Dieu. Nous pourrons peut-être revenir sur ce côté de ce qu'est un mariage selon Dieu. Nous pouvons rappeler aussi que selon la loi de Moïse, que nous trouvons donc dans le Deutéronome, le plus proche parent, quand un Israélite mourait, le plus proche parent avait un double devoir. Il devait racheter la terre de celui qui venait de mourir. Et la deuxième chose, c'était d'épouser sa veuve. Et donc, si un homme mourait sans enfant, son plus proche parent devait donc épouser sa veuve. Et le premier-né de cette union devait porter le nom du défunt, afin que ce nom ne périsse pas, donc, dans le peuple d'Israël. Et nous voyons qu'il s'agit d'un rachat, d'une transaction, pour ainsi dire, selon la loi de Moïse. Et cette transaction devait se faire en présence des anciens de la ville. Ici, c'était Bethléem, la ville de Juda, Ephrata, la ville de Juda. Et donc, toutes les affaires importantes se traitaient donc à la porte de la ville par ce conseil des anciens. Et ici, nous voyons dans l'histoire de Boaz et de Ruth qu'il s'agissait donc de 10 anciens. Et ces 10 anciens sont bien sûr une image de la loi. Ils étaient responsables, au fond, que la loi de Moïse soit appliquée dans toutes les transactions. Et nous voyons en particulier que Boaz connaissait parfaitement la loi de Moïse, parce qu'il se rend donc à la porte de Bethléem, où ce conseil des anciens se faisait habituellement. En Israël, donc, les anciens administraient et gouvernaient donc à la porte de la ville, selon le droit et la justice, selon selon la loi de Moïse, selon les 10 commandements. Et est-ce qu'il y a une image en ce qui nous concerne d'un point de vue administration de l'Assemblée? Certainement. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament que quand il s'agit d'administration de l'Assemblée, il y a plusieurs passages où il est dit que les anciens dans une Assemblée ou les surveillants avaient une place particulière, ils présidaient. Et donc, nous pouvons voir que l'obligation morale et spirituelle des anciens, c'était au fond l'application de la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, certainement qu'il y a aussi une application pratique en ce qui concerne l'administration de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y ait pour les frères qui s'en occupent cette référence de la parole de Dieu, toujours voir que dit la parole de Dieu, que disent les Écritures avant d'engager l'Assemblée dans un chemin. On peut lire par exemple dans 1 Timothée, ce sont des passages connus, mais c'est un rappel qui est souvent nécessaire. 1 Timothée chapitre 5, verset 17, il nous est dit que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Présider, dans le mot grec, c'est aller devant, c'est-à-dire les anciens dans 1 Timothée 5 devaient être exemplaires. Hein, que les anciens qui président dûment, voilà, c'est un ancien, un surveillant dans une assemblée, doit aller devant, être un exemple. Dans les Actes au chapitre 15, à propos de l'administration de l'assemblée, par exemple, au verset 22, « Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche. » On voit là que l'administration de l'assemblée, une image donc que nous trouvons dans le livre de Ruth, nous voyons que l'administration de l'assemblée n'est pas exactement la gestion d'une entreprise quelconque comme il s'agit dans le monde. Dans le monde, à partir d'un certain âge, les gestionnaires des entreprises, on leur demande de partir. Tandis que dans la parole de Dieu, nous voyons au contraire que nous avons à avoir de l'estime pour les anciens, les personnes âgées, les vieillards, ceux qui ont les cheveux blancs, à cause sans doute de leur connaissance de la parole de Dieu, mais aussi de leur expérience. Alors, au verset 2 du chapitre 4, on voit que Boaz prend 10 hommes, des anciens de la ville, et dit « Asseyez-vous ici », et ils s'assirent. Et nous voyons que son engagement qu'il avait pris vis-à-vis de Ruth à la fin du chapitre 3, de s'occuper incessamment de cette affaire, eh bien, il est diligent et il vient. Il monte à la porte, il s'assoit, et puis nous voyons au milieu du verset 1 qu'il appelle un tel qui n'est pas nommé, « Détourne-toi, assieds-toi ici ». Et cet homme qui se détourne et s'assoit était donc le premier parent proche qui avait le droit de rachat sur l'affaire de Ruth, qui était veuve. Donc nous voyons qu'en présence de ces anciens, ces 10 anciens se traitaient toutes les affaires importantes dans les villes d'Israël, et en particulier ici à Bethléem, dans les villes de Juda. Et donc le rachat était une transaction importante, évidemment, et une transaction solennelle, et qui devait être scellée par la présence de témoins. Et nous voyons que le premier parent que Boaz vient d'interpeller refuse d'exercer sa fonction de lévira, et d'épouser la veuve du défunt, du mari de Ruth. Et il craint donc, en épousant cette veuve, de s'appauvrir et de dilapider ou de de ruiner son propre patrimoine. Et on a pu dire que c'est une image de la loi qui est incapable de sauver. Et il y a une expression dans Ruth au chapitre 4, cet homme dit, verset 6, « Je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. » Et à la fin du verset 6, je ne puis racheter. » Et c'est une image de la loi qui était incapable de sauver, de nous sauver et de nous faire vivre. Ce n'est pas que la loi était mauvaise, elle était sainte et bonne, mais c'était l'homme et c'était ce qui nous concernait. L'homme pécheur n'était pas capable de réaliser ce que la loi demandait. Et on a une expression dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, c'est que la loi n'a rien amené à la perfection. Donc la loi, qui est sainte et bonne, aucun homme, à part le Seigneur Jésus, n'a été capable de réaliser tout ce qu'elle demandait. Et donc, je ne puis la racheter. Nous voyons que cet homme, ce premier parent qui aurait pu épouser donc cette veuve, est dans l'incapacité de sauver et personnifie donc la loi. Et nous voyons que cet homme s'efface et donc la loi a été mise de côté et la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, dont le type ici est Boaz, et Boaz, en type Jésus-Christ, est seul capable de sauver les hommes. Seul le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, qui est venu pour souffrir et mourir, a la capacité de nous sauver. La loi ainsi a été mise de côté, et la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et donc nous voyons que Christ vient après la loi, et c'est exactement ce que nous avons dans l'Ancien Testament, la loi qui n'a pas été capable de nous sauver à cause de nous-mêmes, parce que la loi elle-même était sainte et bonne, mais l'homme, à cause de notre nature pécheresse, était dans cette incapacité de se sauver lui-même, et par grâce, Dieu le Père a envoyé son propre Fils pour souffrir et pour mourir, et la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter.
Dans le livre de Ruth, on est bien sous la loi. Mais Boaz est type du Christ. Et nous savons que la loi ne peut pas sauver. On peut simplement lire Galates 2, verset 16 et verset 21.
Galates 2, verset 16. Sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ, et non pas sur le principe des œuvres de loi, parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Et verset 21, « Car si la justice est par la loi, Christ, donc, est mort pour rien. » Peut-être encore une pensée. Nous voyons que lorsqu'il s'agit de racheter Ruth, Boaz met toute son énergie, toute sa diligence, et cela nous parle bien certainement du Seigneur Jésus. Nous voyons que c'est lui qui prend l'initiative de venir et parler de cette question du droit de rachat pour Ruth. Il n'a pas attendu que cet homme le fasse. Lui-même, avec autorité, est venu comme fils de l'homme, certainement, mais nous voyons bien les caractères, les traits du Fils de Dieu. Quand il dit, toi un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. Quand il disait à ses disciples, toi suis-moi. Quand il disait à ceux qui venaient le prendre, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et nous voyons ces caractères d'une grande puissance pour nous sauver, mais aussi combien c'est beau de voir que il a le désir de rester après la loi, après cet homme. Et il le dit, moi je suis après toi. Et le Seigneur Jésus sur la terre a toujours mis en avant et glorifié et montré que la loi était bonne, toujours. Mais il était plus grand que la loi. Et il l'a manifesté à la croix quand il nous a rachetés, parce qu'en lui était la force de le faire.
Encore une pensée après ce qui vient d'être dit, c'est que pendant que Boaz exerce son droit de rachat, eh bien Ruth attend dans le silence. C'est-à-dire aucune œuvre de sa part, aucune manifestation, elle ne dit rien, tout se passe en dehors d'elle. Et nous voyons que pendant ce temps, Boaz, qui symbolise la grâce de Dieu, manifestée dans le Seigneur Jésus, eh bien Boaz exerce son droit de rachat et Ruth, elle ne fait rien. Et comprenons que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il a porté en son corps sur le bois nos péchés. Et de notre côté, nous n'avons rien à faire, aucune œuvre de loi, aucune œuvre quelconque. C'est uniquement sur la base de la grâce et de la foi en son œuvre que nous pouvons être sauvés. Ruth attend dans le silence.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que de la manière dont Boaz dit aux proches parentés, aux proches parents, comment il lui décrit la situation en toute objectivité. Donc on voit là que Boaz, il ne veut pas l'influencer, il parle la vérité, ça nous parle aussi du Seigneur. Et parce que même il lui dit, si tu veux racheter, rachète. Au point que le proche parent lui dit, je rachèterai. Mais quand il sait que dans le même rachat, il faut prendre Ruth, comme on l'a dit, il dit, je ne peux pas. Et donc, ce qui avait de la valeur pour ce proche parent, en fait, c'était le champ. Et ce qui est intéressant pour Boaz, ce qui avait la valeur, c'était pas le champ, mais c'était Ruth. C'est comme on a pensé encore ce matin à cette perle que le Seigneur Jésus a achetée. Il a tout donné pour... il a tout vendu pour pouvoir acheter cette perle. Et par rapport à ce qu'on a vu aussi, l'image de la loi et de la grâce, on peut encore lire en Galates, aussi encore en Galates 4 et au verset 4. Galates 4, verset 4. « Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi, donc né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Bon, là, l'image, c'est plutôt que nous sommes devenus des enfants, mais on voit que le Seigneur Jésus est venu pour nous racheter de la loi.
Et il est dit dans la parole, je me rappelle où c'est, que Christ est la fin de la loi.
On peut répéter que Boaz symbolise la grâce et que seul Christ peut racheter. Et ensuite, nous voyons que c'était un élément public d'un acte juridique, pour ainsi dire, donc de ôter sa sandale. Eh bien, ainsi l'homme transmettait son droit à Boaz. Et en image, c'est la loi qui cède ses droits à Christ. À Christ qui devient le Rédempteur. La loi est passée, bonne, sans doute sainte et bonne, mais voilà... Maintenant, c'est Christ seul qui peut racheter l'homme. Nous avons dit au début que Boaz, l'histoire de Boaz et de Ruth est une préfiguration de l'histoire de Christ et de l'Église. Et donc, nous voyons que Dieu nous accorde la grâce non seulement d'être sauvés, d'être délivrés du péché, d'être des rachetés, mais aussi d'être unis à Christ. Nous sommes maintenant, par grâce, unis pour l'éternité à Christ. Nous sommes dans le Christ Jésus. C'est une expression extraordinaire. Quand Dieu nous voit, eh bien, Dieu voit Christ. Nous sommes dans le Christ Jésus, nous sommes unis à lui pour l'éternité. Et c'est ce que nous voyons en particulier quand il nous est dit, à la fin du verset 9, « Je me suis acquis pour femme, Ruth, la Moabite. » Christ nous a acquis, c'est-à-dire que nous faisons partie de l'assemblée de l'Église qui est l'épouse de Christ. « Je me suis acquis pour femme, Ruth, la Moabite. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est par amour que Christ a aimé donc l'assemblée et s'est acquis l'assemblée pour lui-même.
Je voudrais juste relever deux petits points, sans vouloir trop revenir en arrière, mais au verset 1, on a beaucoup dit que Boaz avait pris l'action de régler l'affaire tout de suite. Aujourd'hui, comment on ferait? On irait prendre rendez-vous avec la personne, on irait toquer à la porte. Et là, c'est assez intéressant de voir au verset 1, Boaz monta à la porte et s'assit là. Il va à l'endroit qui est convenu pour régler ce genre d'affaires, mais il ne sait pas si la personne sera présente ou pas. Et après, il y a Dieu qui agit, qui place les circonstances. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Et là, il y a les choses qui sont préparées. Boaz, il va à l'endroit, il a son objectif, mais il fait d'abord ce qui est selon le commandement, c'est d'aller à la porte. Et Dieu prépare la suite. Plutôt au verset 7, verset 8, sur la notion de coutume, tout le premier paragraphe est vraiment un rappel de ce qui est la notion de loi. Il y a aussi des coutumes qui sont là. Et là, c'est clairement le mot coutume est utilisé. Alors, je le lirai au verset 8, parce qu'il n'est pas entre parenthèses, entre crochets. C'était là une coutume en Israël. Et c'est important de savoir ce qui est vraiment de la parole de Dieu et ce qui est des coutumes, aussi bonnes qu'elles soient-elles, mais de savoir faire la différence entre les deux.
Nous avons évoqué le fait que Ruth est une image de l'Église et Boaz une image de Christ. Donc Boaz et Ruth, Christ et l'Église. On peut sans doute aussi y voir l'image à travers Ruth de la restauration d'Israël. Et un jour, nous savons, à travers les prophéties que Israël sera restauré, reviendra donc en particulier deux tribus des nations, comme Ruth était une Moabite, donc et le résidu juif donc viendra des nations, sera éprouvé alors qu'il était dispersé au milieu des nations, reviendra sur la terre d'Israël et donc passera par cette grande tribulation et sera restauré pleinement jusqu'à retrouver donc une relation avec Christ, comme cela nous est expliqué dans le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire la bien-aimée, c'est Israël qui est l'épouse terrestre de Christ, et le bien-aimé, c'est Christ lui-même. Et donc, si nous pouvons voir l'image de Christ et l'Église, l'épouse céleste, d'autres ont pu voir, et certainement c'est une chose complémentaire, une relation retrouvée entre Christ et Israël, l'épouse terrestre. Encore un point à propos de l'administration des anciens. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous voyons que la décision est prise par les anciens. C'est-à-dire verset 2, « Et Boaz prit 10 hommes des anciens de la ville ». Et puis toute l'affaire donc est présentée, et puis elle est réglée. Et nous voyons au verset 11 que les anciens donc s'effacent. Il est dit au verset 11 au début, « Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent ». C'est-à-dire le peuple passe maintenant au premier plan, après les anciens. Dans l'administration de l'Assemblée, il y a sans doute, cela fait partie sans doute de ce qui est demandé de faire aux frères, et parmi les frères, il y a certainement des frères plus âgés, plus anciens, qui président et qui peuvent justement administrer avec l'aide de tous, bien sûr, mais quand une décision est prise, les anciens, eh bien, ils s'effacent. Et au fond, la décision est la décision de tous, de l'ensemble des frères et ensuite de toute l'Assemblée. Et donc au verset 2, l'administration elle-même est faite par les anciens, pris 10 hommes des anciens, mais au verset 11 au début, nous voyons que ces anciens s'effacent et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes les témoins, l'affaire elle est maintenant terminée, le peuple passe au premier plan après les anciens. » Au verset 11 et 12, après cette expression, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, à partir de cette expression face à l'Éternel jusqu'à la fin du verset 12, nous avons les souhaits et les vœux de tout le peuple et des anciens vis-à-vis du mariage de Boaz et de Ruth. Et dans ces deux versets, nous trouvons sept paroles prophétiques. Et fasse l'Éternel, que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Ensuite, et deviens puissant dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem, et que de la prospérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. Quel est le souhait et les vœux du peuple de Juda pour Boaz et pour Ruth? Eh bien, si nous comprenons ce qui nous est dit, eh bien, c'est que le souhait, c'est que l'histoire d'Israël recommencera sur la base de la grâce de Dieu. Ce que nous avons dit là, il y a un moment, à propos de la restauration d'Israël, eh bien, le souhait du peuple de Juda est que l'histoire d'Israël recommence d'une manière beaucoup plus heureuse que dans le livre des juges, hein, et que cette histoire d'Israël recommence sur la base de la grâce de Dieu. Les villes citées, Ephrata et Bethléem, nous savons que Ephrata et Bethléem, c'est pratiquement la même chose selon l'expression que nous trouvons dans le prophète Michée au chapitre 5, sauf erreur, verset 2, eh bien, ce sont des villes aussi qui sont, les villes citées sont les témoins de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, dans Bethléem, Jésus-Christ est né à Bethléem. Ce sont Ephrata, Bethléem, sont des villes qui ont vu la naissance de Jésus-Christ. Et donc, s'il y a des villes sur cette terre qui ont connu la grâce, eh bien, ce sont bien Bethléem et Ephrata qui ont connu la naissance de Jésus-Christ en leur sein. Au verset 12, il nous est parlé de la maison de Pérets et de Tamar. C'est une histoire épouvantable que nous trouvons dans la Genèse au chapitre 38, l'histoire de Tamar qui avait épousé successivement deux frères de Judas. C'était une femme, nous dirions, honteuse maintenant. Et ce qui nous est dit dans Genèse 38 sur Judas est quelque chose de, nous allons dire, d'horrible. Eh bien, pourtant, de la postérité qui va naître du mariage, de l'union entre Boaz et Ruth, eh bien, cette postérité va être établie aussi selon l'élection de la grâce, puisque l'enfant qui va naître, et nous allons peut-être pas en parler aujourd'hui, Obed va être un des ancêtres de Jésus-Christ. Donc, les paroles que nous trouvons dans ces versets 11 et 12, ces vœux du peuple de Juda, sont des paroles prophétiques, puisqu'elles nous parlent de la restauration future d'Israël. Elles nous parlent de deux cités, de deux villes qui ont connu la grâce par la naissance de Jésus-Christ, et la postérité qui va venir à travers cette maison de Pérets et de Tamar, eh bien, sera selon l'élection de la grâce, puisque la naissance de Jésus-Christ va venir à travers cette histoire.
Juste citer le Proverbe 31, verset 23. Quand Boaz se marie avec Ruth, il écrit que son mari est connu lorsqu'il entra dans les portes, lorsqu'il s'assied parmi les anciens du pays. Je crois que c'est ça. Et aussi, en Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards.
Peut-être que la prochaine fois, si le Seigneur le permet, on pourra finir Ruth et peut-être envisager l'enseignement sur le mariage qui est remis en question aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion de reparler du sujet.
À partir de la deuxième strophe.